Morin.
Ça va bien aller?
Live.
Toujours.
En vacances.
Live. Ouais. Ça va bien aller.
Live.
Radio X.
Merci d'être là. Morin Live, on est avec vous jusqu'à 10h ce matin. Rapidement, là, vous dire que dans le trafic au niveau de la circulation, c'est un beau matin, là, surtout sur la rive sud. Il n'y a pas d'attente vers les ponts. Il y a le secteur des travaux de Taniata dans les deux directions sur la 20. Ça peut être compliqué. En quatre directions sud, à la hauteur de Charest, ça commence à être compliqué à cause du viaduc sur le chemin Sainte-Foy et Capitale. Également, c'est comme d'habitude, c'est complètement jamais, on dirait. Un samedi matin, bon départ. Construit des terrains de soccer partout au Canada ainsi que... Plus d'enfants ont des endroits pour jouer. Visitez bondeparts.canadiantower.ca. On en parlait hier. C'est un texte qu'il y avait dans le journal, un texte qui a été sur Internet le week-end dernier. Un texte de Anne-Caroline Desplanques qui nous parle des militaires canadiens. En fait, le titre, c'est « Les soldats canadiens en Lettonie serviront-ils de chair à canon? » Point d'interrogation. Entre autres, dans cet article-là, on parle avec Justin Massy, qui est co-directeur du réseau d'analyse stratégique de l'Université du Québec à Montréal. Il est en ligne avec nous, M. Massy. Comment allez-vous?
Ça va bien, vous?
Très bien, merci. Bon mercredi matin. Ça réveille dur, mais ça réveille de même. Pareil, la guerre approche. Est-ce que, jusqu'à quel point c'est crédible, ces informations-là? Parce qu'on est à Québec, là. C'est les gars de Valcartier, les gars et les filles de Valcartier qui sont là-bas. Donc, c'est le genre d'article qui en a stressé plus d'un hier matin.
Moi, je suis un peu étonné que ça en stresse. Moi, j'ai vu les troupes canadiennes, dont des Québécois en 2023. J'y retourne cette année aussi en Lettonie. L'idée à la base de ce déploiement-là de soldats canadiens, mais pas juste canadiens, là. Il y a plein de pays européens dans les pays baltes présentement, Lettonie, Lituanie, Estonie, c'est de faire, en anglais, on appelle ça un tripwire, une espèce de force de déclenchement. C'est-à-dire, c'est pas assez de troupes pour faire face à l'armée russe directement. Pour vous donner un ordre de grandeur, là, il y a à peu près 700 000 soldats russes en Ukraine présentement. 700 000 pour mener cette guerre-là. C'est pas avec une brigade de 5 000 soldats, dont des 2 200 Canadiens, qu'on peut affronter la totalité de l'armée russe. Mais l'idée, c'est d'avoir des présences de pays étrangers dans ces trois pays-là, qui sont tout petits, qui ont une frontière commune avec la Russie. Si la Russie décidait de les attaquer, ben, ils s'attaqueraient pas juste à des petits pays. Ils s'attaqueraient à plusieurs pays européens, des Allemands, des Canadiens, des Américains, etc. Avec l'idée de, si on attaque tous ces pays-là auront une espèce de responsabilité morale et politique de réagir, de les défendre et de renforcer ce contingent-là. Donc, l'idée, c'est de dissuader la Russie. C'est pas nécessairement d'avoir la capacité de gagner la guerre au jour 1 contre une force russe, mais d'être assez compétent et assez crédible pour que Vladimir Poutine y pense à deux fois avant d'attaquer ces petits pays baltes.
C'est Washington, en fait, qui a alerté le Canada. C'est une alerte. Est-ce qu'on doit prendre ça au sérieux, là, ce que le renseignement américain dit?
Bien, là, il y a plusieurs types de renseignements. Donc, il y a deux types de menaces que la Russie pose présentement. La menace qui est en cours, déjà, elle le fait, c'est avec des actes de sabotage sur les chemins de fer, par exemple, mais beaucoup d'incursions de drones. Il y en a une vingtaine qui sont allées en Pologne l'an dernier. Il y a eu un rapport qui a montré qu'il y a des dizaines et des dizaines d'attaques de drones russes dans les pays européens, au Danemark, en Allemagne, en Norvège, dans les Pays-Baltes, etc., qui visent à tester les défenses aériennes de ces pays-là, qui visent à nuire un peu à leur capacité de réponse. Et essentiellement, l'objectif de la Russie, c'est que on cesse d'aider l'Ukraine à se défendre parce que l'Ukraine commence à faire des gains face à la Russie. Présentement, elle mène des frappes en profondeur qui font mal là, beaucoup à l'économie de la Russie. Et la Russie n'arrive pas à avancer sur le champ de bataille. Donc, on veut, du point de vue russe, couper cette aide-là en essayant de miner le soutien que les Européens et les Canadiens continuent de donner à l'Ukraine. Mais la menace que le service de renseignement a donnée à la Pologne, c'était un peu plus grand, c'est-à-dire la Russie pourrait préparer une attaque plus conventionnelle, donc pas juste quelques drones, mais une attaque avec des soldats, dans un des pays de l'Europe de l'Est, peut-être la Pologne, peut-être les pays baltes, avec l'idée de créer une escalade, si on veut, pour que les pays européens arrêtent de donner de l'aide à l'Ukraine. En disant, ben là, attention, là, la guerre se retrouve sur notre propre territoire, il faut se défendre, donc on va prioriser notre défense plutôt que de soutenir l'Ukraine. Mais c'est des renseignements qui, je pense, qui sont crédibles parce que c'est une volonté russe. Est-ce qu'ils vont le faire? Ça, on ne le sait pas. Mais bien sûr, ce qu'on doit faire, c'est se préparer au cas où ça pourrait se produire. C'est ça l'idée d'une politique de défense, c'est de se préparer au pire pour espérer que ça n'arrive jamais.
Mais il y a quand même un risque si Poutine fait ça, je veux dire, s'il attaque des pays membres de l'OTAN, ça se pourrait que ce soit ni plus ni moins que le début de la Troisième Guerre mondiale.
Là. Tout dépend de la réaction des pays de l'OTAN. Si vous avez un président américain qui dit ben « Moi, je vais peut-être pas vous défendre parce que vous n'avez pas suivi ma guerre en Iran, pour laquelle, d'ailleurs, je vous ai pas consulté, ou je trouve que vous dépensez pas assez en achetant des armes américaines, alors je vais peut-être pas vous défendre, ou je ne veux pas, moi, président des États-Unis, nuire à ma bonne relation de mon ami Vladimir Poutine, alors je ne vais pas réagir. » Il y a tout ce contexte-là qui crée une plus grande incertitude en Europe à savoir comment les États-Unis réagiraient. Et là, ce que l'OTAN est en train de faire, les Canadiens, les Européens, c'est essayer de développer des plans de défense en Europe sans le soutien des États-Unis. Et ça, c'est complètement nouveau parce qu'on est incertain maintenant dans ces pays-là à savoir si les États-Unis seront à nos côtés. Il faut se rappeler qu'il y a eu deux guerres mondiales où les États-Unis n'étaient pas impliqué dans la guerre au début de la guerre. Le Canada a fait la guerre en 1914 et en 1939 sans les États-Unis pendant plusieurs années. Mm-hmm. Malheureusement, c'est un scénario qui, malheureusement, pourrait se reproduire à l'avenir. Et ça, le fait qu'on est incertain de la réaction américaine, ça crée peut-être plus de probabilité du côté de la lecture de Vladimir Poutine qu'il fait d'être capable de créer les dissensions en Europe en faisant pas une attaque complètement totale comme il l'a mené tous azimuts là, contre l'Ukraine, mais en essayant de prendre, par exemple, il y a des villes russophones à Narva, par exemple, ou de prendre un corridor qui sépare là, la Russie de la Biélorussie. Bref, il y a plusieurs scénarios qui sont discutés là, par les experts qui font des scénarios de guerre pour essayer de voir ben, est-ce que la Russie aurait peut-être un avantage d'aller très rapidement prendre un village, par exemple, et ensuite déclarer que si on réagit, elle va utiliser l'arme nucléaire contre nous, pour nous faire peur. Avec ça, on appelle ça le chantage nucléaire. C'est mm-hmm. ce qu'elle a fait là, à l'automne 2022 en envahissant l'Ukraine. Et là, ça créerait probablement beaucoup de débats politiques en Europe, au Canada. Ben, est-ce qu'il faut défendre? Est-ce qu'on veut vraiment faire la guerre pour le petit village X ou Y en Europe de l'Est? Et c'est exactement ce que gagnerait la Russie en faisant ça.
Hier, on a vu que Macron, pour la journée du 14 juillet, a fait comme les autres, c'est-à-dire a fait une parade pour voir qui est-ce qui pisse le plus loin. Est-ce qu'on sent ces tensions-là dans les pays de l'OTAN? Est-ce que tu as l'impression ou est-ce que vous avez l'impression que les pays européens sont vraiment en train de se mettre en position? Ça se peut qu'on la vive, notre Troisième Guerre mondiale, là.
Certains oui, certains non. Plus on est proche de la frontière de la Russie, plus on est prêt. Donc les pays, les petits pays baltes dont je parlais sont vraiment prêts, mais ils sont tellement petits que même s'ils mettent toutes leurs ressources dans les forces armées, c'est pas assez pour se défendre. Mais il y a des pays comme la Finlande, qui a une armée de réservistes de 900 000 soldats qui sont entraînés avec du service militaire annuel, est un pays qui investit beaucoup en défense. La Pologne également a investi énormément, mais surtout en Europe, c'est l'Allemagne. Nous, on pense qu'on est dans un programme de réarmement important au Canada, mais l'Allemagne, elle va dépenser 800 milliards d'euros sur 5 ans. Et son objectif, c'est qu'en 2030, elle a vraiment une capacité de se défendre sans le soutien nécessaire et explicite des États-Unis. Et l'Allemagne part de très loin. Ça, et elle a la capacité financière de le pays. Alors qu'un pays comme la France fait beaucoup de gestes symboliques, mais ses budgets, là, son déficit budgétaire est tellement grand qu'elle est incapable d'augmenter considérablement ses dépenses militaires, un peu comme les Britanniques également, qui ont les mêmes difficultés. Donc, on se tourne plus vers l'Allemagne, qui a un plan crédible de monter en puissance dans les prochaines années, qui fait réaliser qu'effectivement, il y a une prise de conscience, que c'est pas juste des déclarations, qu'on prend la menace russe à la légère, et surtout la menace d'abandon des États-Unis au sérieux.
Mais si jamais les Russes mènent leur menace à terme, qui décident littéralement d'attaquer les Pays-Baltes ou la Pologne, pour moi, c'est vraiment comme se promener avec un lance-flamme dans une grange de foin. Les risques que ça pogne en feu sont élevés. Si jamais l'OTAN colle le bluff du chantage nucléaire de la Russie et qu'il contre-attaque à l'attaque russe, on est dans l'hypothèse, là, je le comprends. Mais si jamais tout ça arrive dans ce scénario suivant, est-ce que les Russes ont la force militaire et les ressources militaires pour mener une guerre sur ce front-là?
Évidemment, là, la variable, c'est est-ce que les États-Unis sont avec nous ou sans nous? parce que la réponse à la question varie beaucoup. Si on a toute la puissance militaire américaine derrière nous, la doctrine militaire américaine, c'est des frappes dévastatrices très rapidement pour détruire et disloquer les forces armées adverses. Mmh. Ils ont cette capacité-là de le faire. Même si pour occuper ou changer le comportement du pays, ça marche pas, comme on le voit en Iran, là, malgré toute la force militaire américaine et israélienne, le contrôle de l'espace aérien, sont incapables de forcer l'Iran à ouvrir le détroit d'Hormuz. Donc, imaginez de vouloir changer le comportement de la Russie. La seule façon qu'on peut le mener, c'est à très long terme. On appelle ça des guerres d'attrition. C'est ça que l'Ukraine mène avec la Russie. C'est des productions de centaines de milliers de drones et de missiles par année et qu'ils s'envoient à coups de centaines par jour. Dans les dernières attaques contre Kiev, là, c'était 675 drones et 73 missiles qui sont abattus sur la capitale. Si vous imaginez ce type de puissance de feu-là dirigée contre un des pays baltes, on n'a pas les défenses antiaériennes pour être capable d'intercepter tout ça. On n'a pas fait ce type de dispositif-là. Puis quand on regarde le programme de réarmement canadien, j'ai vu aucun investissement dans la production de missiles au Canada pour être capable de fournir en guerre à longue durée, parce que ça devient des guerres industrielles, combien on est capable de produire plus rapidement pour infliger le plus de dégâts possible à l'adversaire pour qu'il cesse son comportement. Alors, les États-Unis l'ont, cette capacité-là, mais ils produisent pas assez, même eux, pour renflouer leur stock. Donc là, ils ont un problème de même d'être capable de défendre les pays du Golfe qui sont victimes des représailles de l'Iran. Alors, on peut même pas imaginer le type de quantité de missiles et de drones, notamment, que ça prendrait face à la Russie, encore moins face à la Chine, qui, elle, ont un arsenal encore plus grand et qui soutient, d'ailleurs, économiquement la Russie dans sa guerre contre l'Ukraine. Donc, effectivement, je pense qu'il y a un potentiel latent en Europe et aux États-Unis. C'est juste qu'on l'a pas activé. On n'est pas en économie de guerre. Tandis que la Russie, elle est dès aujourd'hui. L'Ukraine l'est dès aujourd'hui. Mais ça a pris des années avant qu'elle arrive à ce niveau de production-là. Donc, il partirait probablement avec un avantage au jour 1. Mais plus la guerre prendrait du temps, là, sur des années, plus l'Europe et les États-Unis seraient capables de le rattraper.
Le partenariat qui a été signé aujourd'hui concernant la production commune de drones entre l'Union européenne et l'Ukraine, est-ce que ça pourrait devenir un game changer, notamment sur les fronts en Ukraine présentement et vis-à-vis des menaces russes?
Oui, surtout pour l'innovation, parce que nous, nos entreprises, elles gagnent à coopérer avec les entreprises ukrainiennes, parce que les drones, dans le fond, la technologie des drones évolue à chaque semaine, à chaque mois. C'est extrêmement dynamique parce que à chaque fois qu'on produit une nouvelle technologie, ben les Russes s'adaptent, tentent de le contrer, et là, on est toujours dans un cycle d'innovation. Alors, si vous produisez des drones au Canada, mais que vous les mettez pas sur le champ de bataille, vous savez pas si ça fonctionne vraiment contre votre adversaire par rapport à son jamming ou son brouillage, de redire en français, ou d'autres capacités de guerre électronique, notamment pour l'abattre. Alors, en faisant de la coproduction, vous avez vos entreprises européennes ou canadiennes, on peut l'espérer aussi, même si on le fait moins que les Européens, d'investir dans l'industrie ukrainienne, développer avec leur expertise d'innovation. Et eux, ce qu'ils ont, ils ont tout le talent, la capacité, ils manquent de financement. Et nous, c'est ça qu'on a, ce financement-là. Donc, de coproduire avec eux et surtout de développer des capacités qui fonctionnent contre la Russie. Ce qui fait que si, nous, malheureusement, on devait entrer en guerre contre la Russie, on serait déjà beaucoup plus près, si on veut, au niveau de l'industriel, au niveau technologique, si on l'avait fait avec les Ukrainiens dès aujourd'hui, plutôt que d'attendre pour innover.
Est-ce que les soldats canadiens qui sont ce matin en Lettonie, la sentent, la présence russe ou biélorusse actuellement, là où ils sont?
Non, ils ne le sentent pas au sens où ils sont pas face à une armée constituée prête à envahir. Il y a eu une augmentation de la présence militaire russe dans cette région-là, qu'on appelle le nord-ouest là, de la Russie, mais pas avec des exercices aux frontières ou une présence, disons, directe. Il n'y a pas eu d'attaque de drones russes, ben, non identifiés, là, théoriquement russes, donc fantômes, sur les bases militaires, à ma connaissance, là, que le Canada, où le Canada opère. Ça ne veut pas dire que c'est pas parce que vous ne voyez pas la menace aujourd'hui que vous n'êtes pas en train de vous préparer pour ce type de conflit-là. Parce que les forces armées doivent toujours être prêtes si le conflit commençait demain. Et on l'a vu quand il y a eu la montée en puissance de la Russie à la frontière de l'Ukraine vers la fin de l'automne 2021. Ça n'a pas pris beaucoup de temps avant qu'il y ait 190 000 soldats russes à la frontière prêts à intervenir. C'est ce genre de scénario-là qu'on pourrait imaginer dans une guerre vraiment sous azimut, ou plus probablement des équipes, des forces beaucoup plus petites en nombre qui essaieraient de faire une incursion, une percée, comme je parlais tout à l'heure. Et ça, ben, c'est une question de surveillance qui est nécessaire, de détection avant pour être capable d'avoir le renseignement nécessaire pour le voir venir avant qu'il soit trop tard.
Puis j'imagine qu'on les surveille également, les Russes, si jamais il y avait Il y avait du mouvement, puis on se rendait compte qu'ils se préparent à s'approcher de la Lettonie ou de l'Estonie. L'OTAN serait capable de tout de suite envoyer des renforts quand même assez rapidement. Que les Américains participent ou non?
Oui, parce que présentement, on a le luxe de pouvoir se reposer sur le partage du renseignement des États-Unis. C'est eux qui ont les capacités de renseignement, de détection et de satellites, disons, en présence continue pour essayer de voir les mouvements de troupes et déplacements de militaires russes. L'Europe et le Canada n'ont pas ces capacités-là. Ce qui veut dire que si, tant et aussi longtemps que les États-Unis veulent bien nous partager cette information-là, on aura la capacité de détection, mais je pense qu'il faut investir nous-mêmes pour être capable de aussi avoir nos propres services de renseignement, pour être capable de faire nos propres estimations. Et ça, c'est quelque chose qu'on a négligé parce que trop longtemps, les Canadiens et les Européens, on se sont dit, ben les États-Unis seront toujours de notre côté, on n'a pas besoin d'investir en défense. Et là, on voit un peu que, ben, avec la tournée de la politique américaine, et indépendamment de Donald Trump, là, c'est pas quelque chose de propre à Trump, les États-Unis se sentent de manière très générale dans toute la population, incluant chez les démocrates, incapables de à la fois soutenir la menace russe et la menace chinoise en même temps. Il y a une volonté de prioriser la menace de la Chine et laisser aux Européens le soin de s'occuper de la défense de leur territoire. Alors, ça fait en sorte qu'il y a une pression sur nous, nous au Canada, pour défendre notre territoire, pour que les États-Unis puissent s'occuper d'une menace plus importante en Asie, et sur l'Europe, pour qu'eux s'occupent de leur propre territoire, pour que les États-Unis puissent concentrer leur attention en Asie également. Et cette pression-là fait qu'on investit présentement avec un peu plus de rapidité vu les menaces de Donald Trump, mais avec la même vision, je pense, qui pourrait perdurer au-delà des élections de mi-mandat en novembre ou des élections présidentielles de 2028. Je pense qu'il y a encore beaucoup de gens qui pensent qu'on va retourner à la normale en 2029. C'est pas du tout mon interprétation des choses.
Ces 1400 soldats de la région de Québec qui sont là-bas à Lettonie, leurs familles sont ici, ils nous écoutent à l'heure actuelle. Je pense qu'ils sont un peu rassurés là, de qu'on tasse les termes « chair à canon », mais quand même, j'imagine que tout ce beau monde-là a hâte que papa ou maman rentrent à la maison.
C'est certain, mais on peut s'assurer qu'ils sont très bien entraînés, qu'avec l'équipement qu'on leur donne, ils sont extrêmement préparés, qu'ils ne sont pas seuls, ils sont aux côtés de plusieurs autres pays européens qui prennent tous au sérieux cette menace-là. Alors, effectivement, on souhaite que rien ne se passe et que leur capacité à dissuader la Russie fonctionne. C'est ça le but de ces militaires déployés là-bas. Mais si malheureusement les choses devaient mal tourner, on peut quand même se rassurer du fait qu'ils ont une très bonne préparation, une très bonne connaissance des choses et qu'il y a une prise de conscience en Europe qu'on doit se défendre probablement sans les États-Unis et qu'il y a des efforts réels qui sont consentis, notamment en Allemagne, pour ce faire. Et ça, c'est un des pays avec lesquels on a, nous, au Canada, une relation plus étroite. On l'a vu avec notre décision d'acheter des sous-marins auprès des Allemands. Vraiment une relation où cette coopération-là pourrait renforcer le contingent canadien en cas de potentiel conflit. Et on peut avoir une confiance là, que, je pense, nos soldats canadiens en sont bien conscients, sont préparés et se préparent à ce type de menace-là dans l'avenir.
Professeur en sciences politiques, également co-directeur du réseau d'analyse stratégique de l'Université du Québec à Montréal, Justin Massy, merci infiniment de nous avoir parlé ce matin.
Je vous en prie. Au revoir.
Au revoir, Justin Massy, à qui on vient de parler. Parce que c'est une... On s'entend pour dire que c'est une manchette qui faisait peur hier. Là.
Ben oui.
Tu restes à Shannon, t'es en train de préparer les lunchs des enfants pour le terrain de jeu. Tu ouvres le journal, puis c'est marqué « Les soldats canadiens pourraient servir de... Serviront-ils de chair à canon? » Point d'interrogation. C'est sûr que c'est un titre qui te fait avaler de travers ton pamplemousse.
Définitivement. J'ai l'impression qu'on est peut-être plus dans la propagande russe que dans la menace réelle.
C'est absolument
mais...
ça. Mais tu sais, c'est parce qu'il marque en gros, c'est les services secrets américains qui ont averti le Canada de ce potentiel.
Ben oui, mais c'est ça.
Je sais.
Tout est dans ça. Mais évidemment, il faut prendre toute menace au sérieux. Puis le portrait au niveau des Pays-Baltes puis de la Pologne que Justin dépeignait, il est quand même intéressant. Là. C'est vrai. Puis comme tu l'as dit tantôt, si jamais la Russie décide de mener à terme ces attaques-là, on s'en va vers la Troisième Guerre mondiale. Fait que les risques, ça
indéniable.
Arrive.
Ça peut pas être autre chose.
Sans aucune provocation externe de l'OTAN, là, à part celle qu'on voit habituellement, sont peu probables d'arriver. Là.
Puis on l'a vu hier, je ne sais pas si vous avez vu les images de la parade que Macron s'est organisée du côté des... D'abord, les Américains n'étaient pas là. Ça, c'est tout le monde l'a remarqué. Parce qu'il a invité plusieurs armées de l'OTAN à venir parader avec eux autres. Mais hier, tu sais, ça ressemblait à une parade de chinoises.
Ah oui?
Oui, oui.
Ta tête, là. Puis en même temps, eux autres, ils se réarment, là. Macron, la position macroniste, c'est de garder l'autonomie de la France, garder son arme nucléaire à lui et de ne pas l'extensionner à l'Union européenne au complet comme l'Union aimerait l'avoir.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Puis ils font bien.
Ah oui, je pense que oui. C'est
ben oui, la France, c'est la France.
C'est tout. Donc voilà, si votre conjoint ou votre conjointe se trouve, ou encore votre fils ou votre fille se trouve actuellement en Lettonie, c'est, comment je pourrais bien vous dire ça, c'est un temps à faire.
Ouais, ça a l'air que le whisky est bon.
Ouais. Le whisky doit être parfait. C'est sûr qu'eux autres, ils ne vivent pas de la même manière que nous autres, c'est leur quotidien. Mais j'ai quand même cette pensée-là pour les différentes familles qui ont vu ce titre-là hier dans le journal en se disant « Mon Dieu, est-ce que mon conjoint, est-ce que ma conjointe, est-ce que mon fils, ma fille va servir de chair à canon? » La réponse est « Probablement pas. » 7h56, vous écoutez Morin Live.
Morin! Tu as quelque chose à dire?
Ça va bien aller.
Tu veux réagir? 418-670-9098. Radio X.